Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'architecture.
Bonjour à tous. C'est une véritable pépite dont nous allons parler aujourd'hui avec mon ami Denis, que j'accueille avec grand plaisir et avec lequel nous allons parler, plus exactement que je vais interviewer, sur un ouvrage constitué de notes écrites par son père et qui fait suite, son père Serge Moscovici, et qui fait suite à un ouvrage autobiographique qui en quelque sorte en constituait un premier tome et qui s'appelait Chronique des années égarées.
Absolument.
Alors c'est un plongeon dans ce Paris de l'après-guerre qui est extraordinairement passionnant et très émouvant, mais c'est aussi l'histoire d'un réfugié de l'Est qui aborde ce Paris d'après la Seconde Guerre mondiale, qui n'en est pas tout, Paris qui n'est pas tout à fait remis de la Seconde Guerre mondiale, et réfugié qui lui est miséreux, isolé, suspect vis-à-vis de certains, et qui, après avoir mis un an à traverser l'Europe, va progressivement devenir le guide de la psychologie sociale au rayonnement international considérable. Alors, cher Denis, c'est donc une suite aux chroniques des années égarées. Cette suite, elle était évidemment éminemment souhaitée par ceux qui avaient lu cet ouvrage. Mais est-ce qu'elle avait été voulue ou non par ton père et comment est né cet ouvrage ?
C'est en effet la suite de son premier volume de mémoire. Je voudrais d'abord te remercier et remercier aussi Radio Emo pour cette ouverture sur un sujet qui n'est pas forcément au centre des problématiques des gens de l'immobilier. En tout cas, mon père est effectivement arrivé en France en 1948. Il avait écrit ce premier volume de mémoire racontant ses années d'avant son arrivée, donc de 25 à 48. Et puis on s'interrogeait, ce livre est sorti à la fin des années 90, on s'interrogeait tous, sa famille, ses amis, ses proches, sur est-ce qu'il est en train d'écrire un deuxième volume, notamment sur ses années d'après-guerre. Mon père étant un homme secret, il réservait toujours à ses écrits les secrets qu'il ne nous avait pas forcément dit ou raconté. On savait qu'il y travaillait puisqu'il interrogeait énormément ses amis sur son passé dans les dernières années de son existence. Il est mort en 2015. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Cette question est restée un mystère jusqu'à sa mort. Et à ce moment-là, nous nous sommes retrouvés évidemment avec la question de l'appartement, de ces objets, et nous avons retrouvé une armoire dans laquelle se trouvait ce manuscrit qui était constitué de dossiers à peu près classés par année, par thématique, avec des paperolles, des notes. Et c'est à ce moment-là que mon frère et moi avons eu l'envie de sortir, de voir ce qu'il y avait dans ce manuscrit, si c'était publiable et s'il y avait un livre à faire qui serait ce second volume. Nous nous sommes alors adressés à une personne qui avait connu mon père de son vivant, qui s'appelle Alexandra Léniel Lavastine. On a également fait appel à la Maison des Sciences de l'Homme, à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, Michel Véviorca, qui a aussi soutenu ce projet. Et donc, ça a été l'objet d'un travail de 3 ans qui a constitué d'abord à relire ces manuscrits, puis à tricoter un livre dont tous les éléments sont écrits de la main de mon père. Voilà, donc ce livre est né aussi avec l'éditeur Grasset, qui l'a publié fin 2019. Olivier Nora a tout de suite donné son accord pour publier ce livre. Et donc il est maintenant disponible depuis cette époque. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on l'a vu sortir.
Je fais une parenthèse pour dire que cette Maison des Sciences de l'Homme, installée boulevard Raspail, je crois qu'elle vient de la quitter, je la regarde souvent depuis les fenêtres de l'agence de mon ami Francis Solaire, et lui, comme moi, pensons que c'est un des plus beaux bâtiments de Paris, absolument extraordinaire, d'intégration, de sobriété et de talent. Alors, pour revenir à ton père, qui est notre sujet, moi j'ai retenu, à propos de ce que nous sommes en train de dire, deux phrases. La première, c'est « Un exil se terminait, un autre commençait ». Et puis également, Il écrit ailleurs « Il faudra bien expliquer un jour l'irruption d'une humanité inhumaine ». Est-ce qu'à partir de ces deux extraits, on peut essayer d'entrer dans cette chronique des années retrouvées, puisque c'est le sous-titre ?
Je crois que c'est deux très bons choix que tu as fait là. Il y a beaucoup de citations, beaucoup de phrases très signifiantes dans cet ouvrage, mais ces deux-là le sont tout particulièrement. Je passerai sur les années de jeunesse de mon père qui n'ont pas été simples. Il est arrivé en France avec un baccalauréat en poche. 23 années très difficiles, puisque l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, de l'antisémitisme en Roumanie, n'avait pas été simple.
Et la garde de fer.
La garde de fer, enfin toute cette histoire que l'on connaît ou connaît mal, mais en tout cas qui a été assez terrifiante. Et donc il est arrivé, il avait le choix, hein, il faut le dire, il avait le choix, comme beaucoup de gens de cet horizon d'Europe de l'Est, entre plusieurs pays. Et lui, donc il y avait évidemment les États-Unis, la Russie communiste, Israël pour les sionistes, mais aussi Paris. Paris, c'était la France, c'était le pays de la culture, et c'est ce choix-là qu'a fait mon père, à la différence d'autres de ses compatriotes de l'époque, de venir à Paris pour étudier et pour devenir un homme de culture française. Voilà. Et ça a été un fil conducteur de son existence. Ça n'a pas été simple, comme tu le mentionnes, parce que Paris, c'est évidemment une ville extrêmement riche, colorée. Mais enfin, on peut lire dans ce livre à quel point l'accueil et l'ouverture dont on a plutôt tendance à penser qu'elle est extrêmement présente en France, elle n'est pas forcément présente pour ces émigrés qui ont donc passé des moments difficiles. D'ailleurs, à un moment donné, Bernard, il indique qu'il a eu des envies de suicide. Voilà. Tellement la situation était difficile pour des gens de cette nature. Ceci dit, il s'est accroché et s'est donc plongé dans son projet d'être un homme de savoir, d'être un homme de science et d'étudier dans ce Paris. Et il a eu la chance de rencontrer des personnalités tout à fait exceptionnelles, des exilés, comme lui.
Le trio de Metek.
Le fameux trio de Metek. Donc son ami qu'il est resté toute sa vie, Isaac Kiva, qui a été ensuite le directeur général du laboratoire de Claude Lévi-Strauss. On ne le sait pas, c'est un homme qu'on ne connaît pas, mais c'est un ectologue sérieux qui a eu une carrière fantastique et qui est resté toute sa vie l'ami de mon père. Et également le poète Paul Celan.
Immense poète.
Très très grand poète de l'après-guerre, de langue allemande. Avec un destin extrêmement perturbé. Mais ceci dit, c'était ses amis de cette époque. Il y avait d'autres gens autour, bien entendu, des gens comme André Schwarzbarth, comme Lucien Goldman, son ami également de toujours, Gérard Thionnoyer, un architecte de l'atelier de Montrouge, au départ en tout cas, et puis Guy Flandre, un poète surréaliste. C'est cette bande-là qui a commencé dans ces années-là.
Dans ce Paris appelé Paris Canaille, par Léo Ferré à l'époque. Alors, la vraie question, évidemment, c'est comment on passe de cette vie extraordinairement difficile dans un milieu qu'on peut qualifier d'assez hostile, honnêtement, véritablement pas accueillant. Il commence par des petits métiers, par des petits boulots dans la confection, dans le Marais. Et puis, comment on passe de ça et comment devient-on ce directeur du CNRS, ce professeur à l'école des hautes études de sciences sociales, appelé à New York, à Genève, à Louvain, à Cambridge, enfin, et j'en oublie beaucoup. Comment ça s'est passé ?
Alors, effectivement, il a eu plusieurs vies à cette époque, puisque il lui fallait financer ses études. Donc, il a été coupeur. Livreur dans pas mal d'entreprises de confection ou de peau, comme on dit, dans le Marais ou vers les Halles. Ça, c'était sa vie de la nuit. Il y avait aussi la vie intellectuelle. qui était évidemment très très riche dans le quartier latin, notamment ce quartier latin qui a laissé beaucoup de traces dans notre inconscient. Et toujours est-il que il le dit lui-même dans ce livre. Qu'est-ce qui a conduit à ce succès? Bah, c'est son travail, c'est sa volonté de devenir un homme de savoir. Et pour cela, il a eu la chance de faire des grandes rencontres. Donc l'une avec Daniel Lagache, qui est devenu son maître de thèse, et l'autre avec Alexandre Coiré, qui est un très très grand historien des sciences, épistémologue, je crois, oublié, mais néanmoins extrêmement important en France. Et c'est ces deux personnes qui ont cru dans les qualités de mon père et qui lui ont, je dirais, ouvert certaines portes.
Je voudrais encore à cette occasion citer deux phrases que j'ai retenues. L'une, c'est « Nous n'étions pas d'ici, mais nous étions de notre temps », ce qui est quand même assez magnifique. Et puis une autre qui est « Apporter notre pierre à l'intelligence du monde ». Et je pensais, avec cette formule, à celle de Louis Aragon, avoir été peut-être utile. Est-ce que ça le définit bien, ça? Est-ce que ça définit bien ce passage de sa vie?
Alors, je pense que après coup, on peut effectivement dire que ça le définit. Après, évidemment, la richesse de l'existence est impressionnante. Je pense que ce livre en donne une bonne image. Je crois que sa vie a été faite de hasard et moi, je suis un amateur de surréalisme. C'est sûrement grâce à cela, parce que je crois qu'il y a des vrais hasards, des vraies rencontres dans la vie. C'est ce qu'il a fait.
Il a su les saisir.
Il a su les saisir. Je crois que c'était quelqu'un d'extrêmement résistant. Ça ne l'a pas laissé insensible. C'était quelqu'un de très sensible. Et donc, il a bien vu la dureté des choses.
Avec un instinct très fort, sans doute.
Beaucoup d'instinct, absolument. Un instinctif, je ne sais pas si on peut dire que c'est lié à des racines. Mon père avait une caractéristique, c'est un secret que je te livre et que je livre à Radio Imo en exclusivité. Ouais. Il lisait dans le marc du café.
C'est vrai?
Absolument. Voilà. Donc il a prévu.
Tu as vu ça? Il t'a lu des choses dans le marc du café?
Alors, il refusait de le faire pour sa famille.
D'accord.
Mais en revanche, il l'a fait pour certains de ses amis. Et un de ses grands amis, il lui a prédit un accident de voiture qui est arrivé.
Extraordinaire.
Voilà.
Extraordinaire. Alors, j'ai cru comprendre aussi qu'il avait eu évidemment beaucoup de difficultés d'intégration. Il écrit ailleurs, on ne s'assimile pas, on assimile. On ne s'intègre pas, on intègre. Et parmi tous ces obstacles, et d'une certaine façon, pour dire les choses brutalement, tous ces ennemis objectifs, il y avait les communistes. Il y avait les communistes en France, extraordinairement puissants à ce moment-là, avec le vent en poupe. Et qui ne lui pardonnait pas d'avoir quitté son pays. Hein. Et j'ai aussi relevé la formule de Milos Forman qu'il cite. « Je ne discute plus de certains sujets. » Il parlait évidemment du communisme. « Je sais que celui qui n'a pas vu les choses de près ne peut les comprendre. » C'est, je trouve, beaucoup de leçons. En peu de mots, là, tout ce que je viens de dire, c'est beaucoup de leçons pour nous tous. Est-ce que ça a un écho aujourd'hui, tout ça?
Il me semble que ça devrait faire écho avec ce que nous vivons actuellement. Bon, cette adversité des communistes, je dirais qu'il l'a vécu de manière extrêmement critique en Roumanie. Donc ce qui a suivi ici a été sans trop de conséquences.
Il cite un jeune homme très intelligent, très beau, qui rejoint leur groupe, qui séduit tout le monde, etc., et puis qui disparaît un beau matin et dont on apprend qu'en fait, c'était un agent des services secrets roumains, etc.
C'est absolument
terrifiant. Ça montre quand même cette vie d'inquiétude. Bon. Alors, je termine sur une note plus gaie. C'est quand même un des fondateurs de l'écologie en France, compagnon de route de René Dumont, compagnon de Brice Lalonde. C'est un des théoriciens. Et en particulier, je trouve une chose particulièrement intéressante, c'est le fait qu'il nous fait comprendre que la nature, dont on parle à corps et à cri aujourd'hui, ville et nature, etc., c'est un concept fondamentalement différent selon les pays, selon les cultures, selon, sans jeu de mots, selon les traditions, et donc en fait que ce n'est absolument pas un décor d'opéra ou de théâtre, etc., comme on a tendance à le penser dans ces locaux, par Radio Immo, évidemment, mais dans les locaux dans lesquels nous trouvons, on vient de livrer des centaines de plantes vertes. Allez, la nature est entrée dans l'immeuble. Eh bien, pas du tout. Et ça, je trouve que c'est formidablement intéressant, cette idée que la nature, elle est en nous, et non pas uniquement à l'extérieur, que nous en faisons partie. C'est un ouvrage absolument passionnant. Je suis très heureux que ce soit la seule exception que nous ayons faite à ces chroniques. Pour l'instant, on n'a jamais parlé d'un ouvrage, mais ici, on a parlé de Paris, mine de rien, et puis on a parlé aussi de la vie, du destin d'un homme extraordinaire dans Paris. Donc, on a bien parlé d'immobilier. Merci, Denis.
Merci, Bernard.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.